Radio Kapi.
Le journal. Noël Alouzi Toukabambi à la présentation.
La vie reprend timidement à Goma, au Nord Kivu, une semaine après l'entrée dans la ville du 1-23 soutenue par le Rwanda et les affrontements qui s'en sont suivis. Ce lundi, certains commerces ont ouvert leurs portes, mais les écoles et les universités restent encore fermées. La campagne de balisage sur le fleuve Congo, tronçon Kinshasa-Kisangani, lancée ce week-end par la régie des voies fluviales RVF. Cette campagne de balisage sur l'ensemble du réseau, c'est pour faciliter le transport fluvial, explique Daniel Luaboshi, directeur général de la RVF. Après des perturbations des routes de navigation et même celles des accès portuaires, dues aux dernières crues exceptionnelles sur le bassin du Congo en décembre 2023 et en janvier 2024. L'invité de ce journal s'appelle Yves Amissi. Il est le superviseur chargé des soins de santé primaires dans la zone de santé de Niemba, Kalemi, province du Tanganyika. Il sera question avec lui de dresser le bilan des différentes campagnes de vaccination organisées en 2024 dans cette zone de santé où se retrouvent aussi des camps de déplacés internes. Bonsoir à tous. D'abord cette nouvelle sur la condamnation à mort ce lundi de 8 jeunes gens impliqués dans la mort du journaliste Patrick Adonis Numbi. Le tribunal de grande instance de Lubumbashi, qui siégeait en procédure de flagrance, les a reconnus coupables notamment d'assassinat, d'association des malfaiteurs, de fumeurs de chanvre, de coups et blessures simples, de vols armés et d'extorsion. Quant aux trois femmes poursuivies dans la même cause, elles sont condamnées à 2 ans de prison ferme pour recel des malfaiteurs. Tous sont sommés de payer l'équivalent de 50 000 $ américains en francs congolais. Et le tribunal a aussi ordonné leur arrestation immédiate ainsi que l'inhumation de Patrick Adonis Numbi. Pour rappel, le journaliste avait été retrouvé inerte le 7 janvier dernier aux environs de 23 heures à la hauteur de l'arrêt Kabolela au quartier Gécamine, tué à coups de machette par des inconnus. Au Nord Kivu, une semaine après l'entrée du M23 soutenu par le Rwanda et les affrontements avec les FARDC qui ont paralysé la ville, les armes se sont tues. On note une reprise progressive des activités socio-économiques ce lundi, bien que timidement. Grâce à Mzati, nous fait le point.
Selon des sources locales, certains commerces ont rouvert ce lundi dans plusieurs quartiers, notamment au centre-ville, à Birere et sur d'autres axes principaux. La circulation des personnes, des véhicules et des motos a également repris, mais reste limitée. Les écoles et les universités ainsi que certains services publics demeurent fermés. Toutefois, la mobilité reste un défi majeur. Bien que quelques bus de transport en commun soient en service, la hausse du prix du carburant pèse sur les coûts du transport, compliquant les déplacements des habitants. Dans la partie nord de Goma, malgré la reprise des activités, la crainte d'une reprise des combats est omniprésente. Plusieurs quartiers, dont Kibwe, Kasika, Bouéné, Madjengo, Bugamba 1 et 2 ainsi que Turunga, restent sous tension en raison de la présence des poches de résistance, notamment du Wazalendo. Par ailleurs, des scènes de pillage sont rapportées. Des témoins affirment que les rebelles du M23 ont saccagé des entreprises et des établissements publics en portant des véhicules de l'État qu'ils auraient acheminés hors des Goma. Sur le plan des infrastructures, l'eau a commencé à couler à nouveau dans certains quartiers et l'électricité ainsi que l'accès à l'Internet ont été partiellement rétablis. Face aux difficultés croissantes engendrées par le conflit, plusieurs observateurs estiment que la reprise du trafic sur l'axe Goma-Sakemino-Vamasisi pourrait soulager la population, notamment en permettant un meilleur ravitaillement en produits vivriers.
À noter aussi, ce lundi dans la matinée, des affrontements ont éclaté près du camp de Roussayo, situé à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Goma. Ils ont opposé le M23 à des éléments armés non identifiés. Plusieurs sources concordantes ont signalé que des tirs d'armes légères ainsi que des obus de mortier ont été entendus. Toujours à Goma, malgré les efforts déployés par les équipes de la Croix-Rouge, les corps des victimes de la guerre entre les FARDC et le 1-23 continuent d'être découverts dans la ville. C'est notamment dans le territoire de Nyiragongo où une vingtaine de corps ont été découverts hier dimanche. Une situation similaire est rapportée dans la prison centrale de Goma. Et même certains journalistes de Goma, à leur tour, ont du mal à accéder à la maison de presse, effrayés par les odeurs nauséabondes ressenties dans le périmètre du Mont Goma. Vers le quartier Office, un autre corps y était visible jusque ce matin, comme l'indique cet habitant au téléphone de Ronelly Ntibonera.
Ce qui reste à faire, c'est
ramasser les corps qui sont dans des endroits cachés, par exemple les Mogoma, où jusqu'à présent il y a une odeur nauséabonde. En tout cas, nous pensons que la Croix-Rouge n'a pas encore passé dans la colline ici, en haut. Voilà pourquoi nous sommes dérangés par les odeurs qui viennent de la mort et de l'hôpital provincial. Comme vous le savez, la morgue est juste proche de l'INPC, de la RTNC, de l'enclos de la RTNC. Donc, il y a une morgue tellement construite ici derrière. Et c'est en tout cas une odeur nauséabonde, ce qui fait à ce que pour résister au centre de presse, il faut porter un masque comme.
En ce qui concerne l'économie de la ville de Goma, sachez que les activités socio-économiques n'ont pas vraiment repris comme il faut. Ce lundi, les habitants joints sur place indiquent que seules quelques activités ont repris. Il s'agit de certains marchés, du transport public ainsi que du retrait d'argent via les distributeurs automatiques de certaines banques. Les activités scolaires et celles liées au transfert d'argent via Mobile Money restent pour l'instant inaccessibles. Les services publics ne sont toujours pas fonctionnels. Suivez plutôt les propos de cet habitant de Goma, Jean Paroneline Tibonera.
Tout le moment, on est là, il y a les motos qui circulent, les taxis, les bus et les marchés aussi fonctionnent, sauf que les services publics et les banques ne fonctionnent pas. Hier soir, j'étais à l'alimentation, on m'avait changé 10 dollars à 2500. Au marché, 1 dollar équivaut à 2000 francs. Oui, le marché à la ligne et le marché Birere vers Mosquée, le marché Temka aussi. Mais Virunga, certains seulement, certains commerçants. Pardon?
Est-ce que les banques fonctionnent et les écoles?
Non, les banques ne fonctionnent pas, sauf les ATM. Donc, si tu as un masque, tu peux aller, tu récupères l'argent chez EcoBank, mais pas chez TMB. La connaissance qui est là, c'est EcoBank seulement. Les Airtel et les mobile money ne fonctionnent presque pas.
S'agissant des maisons carcérales, entre 160 et 170 détenus sont morts dans la prison centrale de Mounzenze à Goma le 27 janvier, révèle une source pénitentiaire. Les victimes ont trouvé la mort au cours d'une évasion massive alors que le groupe 123, soutenu par l'armée rwandaise, faisait son entrée dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le reportage de Poli Mouzalia est rendu ici par Martial Papimoukeba.
Les prisonniers avaient profité des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 pour organiser une évasion massive en mettant les feux sur une grande partie de la prison centrale de Mounzenze. Au moins 141 femmes sont mortes et tuées par les feux de l'incendie. On déplore également les décès des 28 enfants qui accompagnaient leur mère incarcérée. Les autres détenus décédés sont morts par balles alors que les gardiens tentaient d'étouffer l'évasion, précise un des responsables de la maison carcérale qui a qui l'anonymat. Une semaine après ces incidents, la principale prison du Nord Kivu est vide. Il n'y a plus de gardiens, plus de détenus. Une grande partie de la maison carcérale a été incendiée, y compris les bureaux de l'administration pénitentiaire. À la suite de cette évasion massive, la prison a été totalement pillée. Avant ces incidents, la prison de Mounzenze comptait environ 4400 détenus.
Pendant ce temps, dans la ville de Beni, toujours au Nord Kivu, la population est descendue dans les rues ce lundi pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo engagés au front contre le M23 soutenu par le Rwanda. Cette marche pacifique qui a drainé du monde a été organisée par la coordination urbaine de la société civile. Une déclaration a été lue devant la mairie de la ville, point de chute de cette marche qui s'est déroulée sans incident. Marc Marofimbo, reportage.
Des milliers des habitants de Beni sont descendus dans les rues ce lundi 3 février pour soutenir les FARDC et dire non à la rébellion du M23 au Nord Kivu et au Sud Kivu soutenu par le Rwanda. Ils ont répondu à l'appel de la coordination de la société civile. Les maires de la ville, les bourgmestres des quatre communes, les élus nationaux et provinciaux présents dans la ville et les membres des différentes associations ont pris part à cette manifestation. Pepin Kavota, le président de la coordination urbaine de la société civile, explique l'objectif de cette activité.
L'objectif principal, c'était le soutien aux FARDC, pleurer avec nos frères et sœurs de Goma, c'était de dire non à la balkanisation, de dire non à l'agression nous imposée par les Rwandais. La grande recommandation à la population, c'est d'abord d'appliquer l'article 63 et 64 de la Constitution, notre Constitution, et aussi exiger à la communauté internationale et même à la SADC de s'imposer au Rwanda pour que le Rwanda ne continue pas son aventure sur le sol congolais. Aux autorités, n'est-ce pas, d'être toujours aux côtés de sa population, parce que la population était abandonnée apparemment à Goma, et c'est autant qu'elle a été tuée comme ça, bêtement, comme des petites mouches, par les Rwandais.
Toutes les activités socio-économiques sont restées paralysées en cette première journée des manifestations qui vont se poursuivre ce mardi 4 février selon la société civile. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
La Régie des voies fluviales RVF a officiellement lancé la campagne de balisage sur le fleuve Congo dans son tronçon Kinshasa-Kisangani. C'était au cours d'une cérémonie organisée le samedi 1er février à Kinshasa au chantier naval de cet établissement public. Le directeur général de la RVF a expliqué que les dernières recrues exceptionnelles sur le bassin du Congo en décembre 2023 et en janvier 2024 avaient occasionné les perturbations des routes de navigation et même celles des accès portuaires. Cette situation, selon Daniel Loiboshi, oblige la RVF à procéder au balisage sur l'ensemble du réseau pour faciliter le transport fluvial, l'épine dorsale de l'économie nationale. Daniel Loiboshi est dans ses propos recueillis par Alain Hirong.
6 mois après le balisage sur la rivière Kasaï, nous voilà encore en train de lancer celle sur le fleuve Congo. Il est vrai que d'aucuns se posent la question du pourquoi du non-balisage permanent sur nos cours d'eau navigables, ou encore pourquoi lancer la présente campagne 2 ans plus tard après celle de 2022. La réponse n'est rien d'autre que dire que malgré la présence d'un personnel qualifié et disposé, la RVF est butée principalement à la précarité de sa trésorerie, due à l'aménagement des ressources financières propres provenant essentiellement des recettes sur la taxe de navigation et au non-décaissement de la subvention que l'État prévoit pour elle. C'est ici l'occasion de demander non seulement à l'État de bien vouloir décaisser régulièrement les crédits prévus pour la RVF, mais aussi à tous les armateurs de la RDC, ici représentés par leur président national, de s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de la RVF pour qu'elle soit toujours capable de leur fournir un travail régulier et de qualité.
Notez que c'est le représentant du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à cette cérémonie, le secrétaire général au ministère des Transports, Voies de communication et des enclavements, Abolia Tabamopolo, qui a donné le coup d'envoi de la dite campagne de balisage sur le fleuve Congo. En Ituri, la société minière SMEC est accusée d'exploitation anarchique et illégale des minerais le long de la rivière Ituri, située entre les territoires de Mambasa et Irumu. Cette dénonciation est contenue dans un rapport transmis ce lundi au gouverneur de province par le député honoraire du territoire d'Irumu, Jackson Aoussé. Il affirme que cette sous-traitance par des expatriés chinois violerait toute la législation régissant le secteur des mines au détriment des communautés riveraines. On l'écoute au micro de Sadiq Aboubakar.
La situation de l'exploitation le long de la rivière Ituri est alarmante. Qu'on peut qualifier un pillage systématique des minerais aujourd'hui par les Chinois, et cela passe à travers nos entreprises et des sous-traitants, c'est tout ça, et c'est inacceptable. L'exploitation minière, c'est un domaine réglementé. Il y a des lois qui encadrent ce domaine. Mais ici, nous sommes dans une situation où nous sortons totalement et complètement de toute la réglementation, parce que je n'ai pas vu, messieurs les journalistes, aucun plat d'études des pactes sociaux ou environnementaux. Je n'ai pas vu aussi les cahiers de charges de la communauté. C'est une exploitation anarchique et illégale, parce qu'aujourd'hui, si vous entrez là-bas, les lits de la rivière Ituri est dénaturé. Les glissements de terre, la pollution de ces eaux, parce qu'il y a des populations dans cette zone qui boivent, qui utilisent au quotidien ces eaux. Est-ce que les précautions ont été prises pour que ces villes-là soient protégées? Je ne pense pas. Qu'on suspende les travaux pour qu'on limite les dégâts. Il faut qu'on revienne autour de la table pour qu'on rediscute sur tous les cahiers de charges pour que les travaux puissent continuer.
Contacté à ce sujet, Saïdi Chichombo, responsable de la société SMEC, rejette toutes ces allégations. Au Kasaï oriental, hausse du prix du sac de charbon de bois dans la ville de Mbujimayi. Il se vendait il y a 3 semaines environ à 25 000 francs congolais. Il se négocie actuellement entre 40 et 45 000 francs. Plusieurs causes sont évoquées pour justifier cette hausse du prix. Depuis Mbujimayi, Esther Ndalafina.
Georgette, vendeuse de charbon de bois au grand marché Bakwadianga, parle de l'absence des transporteurs de charbon de bois vers les centres de consommation.
Les transporteurs de charbon de bois avaient suspendu les activités à cause des festivités. Ils vont reprendre vers le 25 ou le mois prochain.
Albert Ntumba évoque d'autres causes, dont voici.
Là où nous achetons le charbon de bois, les routes sont en mauvais état. 2, il y a hausse des prix de carburant. 3, les précepteurs des taxes nous font payer beaucoup d'argent. À cela s'ajoutent les droits de terre, les dépôts et d'autres formalités.
Cette hausse a entraîné la diminution de la quantité de charbon de bois chez les revendeurs.
J'ai acheté le charbon de bois. C'est une hausse vertigineuse. Je peux faire l'effort pour vendre en détail, diminuer la quantité. Mais il sera toujours difficile de récupérer le capital.
Pendant ce temps, les ménagères disent en pâtir. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Kenya, face à une vague d'enlèvements et des exécutions extrajudiciaires qui indignent le pays, des victimes et proches de victimes appellent la Cour pénale internationale CPI à agir. Déclaration ce lundi à l'agence France-Presse de la Commission nationale des droits humains du pays d'Afrique de l'Est, KNCHR. De plus en plus de voix accusent les autorités d'avoir multiplié les enlèvements et arrestations extrajudiciaires, voire des meurtres d'opposants depuis les manifestations antigouvernementales de juin-juillet durement réprimé. Bob Ojagi et Aslam Longton, enlevés en août 2024, ont témoigné lors d'une conférence de presse hier dimanche avoir été victimes de tortures de la part d'agents de sécurité et vivre dans la peur depuis leur libération en septembre. Ils ont déclaré avoir, malgré cela, avoir décidé de parler pour protéger les autres Kenyans des telles horreurs. La semaine dernière, les corps de deux disparus, Justice Mutumwa et Martin Mwau, ont été identifiés dans une morgue de la capitale Nairobi. Le jour même, le chef de la police, Douglas Kanja, assurait devant un tribunal ne pas savoir où ils étaient. Duncan Kialo, frère de M. Mutumwa, a assuré que le corps de son frère présentait des traces de torture, son front percé de cicatrices profondes, ses yeux percé des marques visibles sur le poignet. Pour la KNCHR, l'État kényan est responsable d'une campagne de terreur. En 2010, la CPI basée à La Haye, je vous le rappelle, a commencé à enquêter sur les graves violations post-électorales de 2007 au Kenya qui ont fait plus de 1100 morts et 600 000 déplacés. 6 suspects, dont l'actuel président kényan et son prédécesseur William Ruto et Uhuru Kenyatta, étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité et meurtre. Des poursuites finalement abandonnées faute de preuves, tandis que l'ex-procureur Fatou Bensouda avait dénoncé une campagne acharnée d'intimidation des témoins.
L'invité.
L'invité de ce journal est Yves Amissi, superviseur chargé des soins de santé primaire dans la zone de santé de Niemba à Kalemi. Il dresse le bilan des différentes campagnes de vaccination organisées en 2024 dans cette zone de santé, dans laquelle on trouve aussi des camps de déplacés internes. Yves Amissi s'entretient avec Paulin Munanga.
Monsieur Yves Amissi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Dites-nous tout d'abord comment se sont déroulées les différentes campagnes de vaccination contre la poliomyélite que vous avez organisées dans votre zone de santé de Niemba au cours de l'année 2024.
Effectivement, dans notre zone de santé de Niemba, qui est une zone de santé urbano-rurale, nous avons eu à mener 6 campagnes qu'on appelle activités de masse. Et au mois de mars, au mois de juin, au mois d'août, au mois d'octobre, au mois de novembre, ainsi qu'au mois de décembre. Et d'une manière générale, les activités se sont bien déroulées et que les enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite. Et qui dit la vaccination, c'est déjà la protection de ces enfants-là. Et nous avons eu à mener des campagnes selon les différentes cibles, les enfants de 0 à 59 mois, ainsi que il y a eu des temps où nous sommes allés jusqu'à 15 ans pour protéger les enfants contre la poliomyélite.
Au sein de votre zone de santé, on trouve aussi des camps de déplacés. Comment est-ce que vous avez pu vous organiser pour vacciner les enfants qui se trouvent dans des camps de déplacés?
Effectivement, comme vous savez, notre zone de santé de Niemba, nous avons dit c'est une zone de santé urbano-rurale, une zone de santé qui est post-conflit, effectivement. Également, nous avons eu des conflits interethniques enregistrés dans certaines aires de santé, dans certains axes de notre zone de santé, qui ont conduit au déplacement de la population vers les camps de déplacés. Et cet aspect des choses n'a pas facilité vraiment les activités de campagne. Mais nous nous sommes efforcés aux côtés des partenaires techniques et financiers qui nous ont vraiment accompagnés et plus nous aider à atteindre tous ces coins-là. Et les enfants ont été vaccinés. Dans les camps de déplacés, on se mettait aussi à utiliser plus les habitants du camp pour faciliter l'intégration. Et ces habitants ont été briefés et les activités se sont bien déroulées dans les camps de déplacés. Pas seulement dans les camps de déplacés, même les villages, les activités se sont bien passées.
Comment est-ce que les habitants vous ont aidé?
Voilà, les habitants, c'est dans la compréhension et l'impréhension, voire même leur implication. Et nous nous sommes vraiment mis à les utiliser via leur connaissance du milieu ainsi que leur implication dans les activités de vaccination. Ça nous a facilité parce que ce n'était pas des corps étrangers qu'on importait. On voyait des gens qui sont bien connus dans le milieu et ce sont ces gens-là qui ont facilité vraiment la vaccination dans ces coins-là.
Au niveau de la zone de santé de Niemba, il y a combien de camps de déplacés?
Pour le moment, on est resté avec 4 camps de déplacés. Auparavant, il y en avait 8. Fin 2023, il y en avait 12. Et on est en train de mettre fin à certains cas pour remettre la population là où il y a maintenant la quiétude. La population peut rentrer dans leur milieu d'origine pour continuer avec les activités champêtres. Et quand qui reste, c'est là où il y a encore plus d'insécurité et qu'il n'y a pas moyen de faire retourner ces gens-là dans leur milieu d'origine.
Et au niveau de statistiques, au cours de l'année 2024, vous venez de dire que vous avez organisé une série de campagnes de vaccination contre la poliomyélite. Pouvons-nous avoir les chiffres des enfants qui ont été vaccinés finalement?
Bien sûr, nous avons amené une série de campagnes qui sont au nombre de 6 d'ailleurs. Et d'une manière globale, nous avons atteint notre objectif. Hein. L'objectif était de vacciner plus ou moins 95% d'enfants contre la poliomyélite. Effectivement, nous avons eu à atteindre une couverture de 98,7% des enfants vaccinés contre la poliomyélite dans toute la zone de santé.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés au cours de ces différentes campagne de vaccination?
Nous avons d'abord connu des difficultés d'ordre sécuritaire. La sécurité dans les deux axes. Sur l'axe Kyoko, sur l'axe Bendera aussi. Et l'axe Kyoko a un sous-axe aussi qui est Lambokilela. Du côté Kyoko et du côté Lambokilela, ce sont les conflits interethniques qui ont bâti les records là-bas. Il n'y avait pas moyen vraiment d'accéder dans ces axes-là. Et sur l'axe Bendera, ce sont les coupeurs de route qui font rage là-bas. Nous avons connu aussi quelques difficultés d'ordre technique. Là, nous avons enregistré aussi le refus de certains parents de faire vacciner leurs enfants.
Monsieur Yves Amissi, je vous remercie.
Ce journal arrive à sa fin. À la présentation, c'était Noëlla Luzitu Kabambi. À la mise en onde, Dieudonné Nyangasa. Un journal coordonné par Jean-Désiré Kanyama et supervisé par Alain Irong Mouchinge. Merci à vous tous de nous avoir suivis.